Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. En septembre dernier, alors qu'un violent orage s'abattait sur Montpellier après de longues semaines de canicule et de sécheresse, la librairie L'Opuscule recevait Victor Delarbol autour de son dernier opus publié par Actes Sud, Par-delà la pluie, titre original Encima de la lluvia, traduit par Claude Bleton. Alors, Lecture par tous était par là, avec ses micros, pour vous, et nous allons vous en restituer de larges extraits. Alors pour les lecteurs fidèles à Victor Delarbol, ils retrouveront dans ce livre et dans l'entretien, la rencontre de ce soir-là, nombre de thèmes chers à l'auteur, le passé, la mémoire, l'enfance meurtrie, les blessures, l'espoir, les jeux complexes de la vie, de la mort, de l'histoire avec sa grande hache et des histoires personnelles qui la tissent ou qui sont écrasées par elle. Alors il s'agit du cinquième roman traduit en France de Victor Delarbol. Le premier, ça avait été La tristesse du samouraï, La tristeza del samouraï, publié en Espagne en 2011. Puis il y a eu La maison des chagrins, Respirar por la herida, 2013. Toutes les vagues de l'océan, ou Millón de gotas, 2014. La veille de presque tout, La víspera de casi todo, 2016, Premio Nadal, auquel il faut ajouter un court texte publié par la Contralée, Les pigeons de Paris. Alors pour ceux qui lisent l'espagnol, il faut ajouter aussi son premier roman, El peso de los muertos, en 2006, qui sera bientôt publié chez Actes Sud, Le poids des morts, qui sera le prochain titre donc publié par Actes Sud, toujours traduit par Claude Bleton, a priori. Et puis son dernier roman, paru en 2019 en Espagne, Antes de los años terribles, avant les années terribles. Alors, de quoi s'agit-il par-delà la pluie? Bon, on va tout simplement prendre le début de la quatrième de couverture, qui nous présente ceci. Les murailles de Tarifa abritent la dernière résidence de deux septuagénaires que rien ne destinait à se rencontrer. Ancien directeur d'une succursale de banque, Miguel est aussi mesuré et prévisible qu'Elena est impulsive et extravagante. La disparition tragique d'un pensionnaire les décide à solder leur compte avec la vie. Ils se lancent sur les routes au volant d'une flamboyante Datsun de 1967. Cap sur Barcelone, Madrid et Malmö. Donc une espèce de road movie, si je puis dire, que ce livre. Alors, Victor Delarbol nous parle d'abord de ces deux personnages, Miguel et Elena.
Je dirais la différence et la ressemblance entre tous les deux. Non, la différence, c'est que Miguel, c'est un type, je dirais, très attiré à les concrets, à la norme, à la loi, à l'ordre d'une vie très, très réglée. En fait, quand on comprend ce qu'il lit, ce qu'il est, la musique qu'il aime, la peinture qu'il aime, on comprend que c'est un type très, très classé, très oui. Organisé, très solide en fait.
Oui, carré.
Très carré. Et qui en même temps refuse toujours son passé, son souvenir du passé, de l'enfance, parce qu'il vient d'une enfance brisée. Il vient d'une enfance très très complexe où l'absence du père, c'est le fantôme du père, c'est très présent, et la folie de sa mère, c'est très présent. Et dans l'autre côté, on trouve Elena, c'est une femme, c'est une femme très différente dans le sens de que par contre, elle est très inspiratrice.
Oui, inspiratrice.
Ouais. Elle est très maligne, parce qu'elle se réfugie toujours avec une masque un peu, je dirais, ironique. L'ironie, c'est le déclin d'une intelligence très important. Pour devenir ironique, il faut être très intelligent. Donc elle comprend très, très bien la nature de la souffrance, de la douleur, mais elle ne la refuse pas. Elle a essayé de changer toute cette douleur qui l'accompagne depuis les prologues, depuis son passé. pour construire une idée de la vie un peu magique, mystérieuse, qui cherche toujours l'inattendu, les miracles. Les points en commun de tous les deux, c'est ce labyrinthe, je dirais, un peu mystérieux de la souffrance, de la douleur, de la blessure d'une enfance brisée et d'une enfance volée. Les racines d'Hélène et les racines de Miguel, ils viennent de la guerre civile espagnole, de les années après la guerre, de la misère, de la honte, de la folie. Et de on peut dire qu'on peut parler d'un arbre qui a pris deux branches très 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 différentes, mais que finalement, c'est toujours le même arbre.
Suite de l'entretien, cette rencontre avec Vítor del Árbol, en précisant que c'était Pascal Pla qui animait la discussion, des deux septuagénaires. Pourquoi la vieillesse?
Parce que la vieillesse, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie. Et mon grand-père, il dit toujours que la vieillesse, c'est un cadeau qu'il faut mériter. Mmh. Il faut y arriver. Mmh. Et en même temps, pour moi, la vieillesse, c'est... On peut parler de la vieillesse, on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler de la maladie, on peut parler de l'humiliation, on peut parler de le silence, on peut parler de l'invisibilité. Mais on peut parler aussi de la joie de vivre, de la sagesse. On peut parler encore de le désir et on peut parler encore de le futur. À mon avis, la vieillesse, c'est pas une... récopilation de passé. La vieillesse, c'est un présent et un futur encore. Jusqu'à la fin, la vie, c'est présent et c'est futur. Et en plus, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai travaillé beaucoup à propos de le passé dans tous mes romans. Et je me suis aperçu quand j'ai écrit ces romans que la vieillesse, c'est le moment où le passé, c'est pas lourd. Le passé, c'est pas une piège qui nous empêche.
Oui, c'est, qui nous, qui, ça s'est allégé en quelque sorte.
Exactement. Non, le passé, c'est nous. Le passé, il nous habite. Non, sais comment dire en français,
c'est ça. C'est ça, c'est ça, complètement. Hein.
Le dije l'autre jour, je l'ai écrit sur Twitter, j'ai dit, moi, j'habite pas le passé. Mais le passé, il m'habite toujours.
Oui.
Ça, c'est la vieillesse.
Thème cher à Vítor del Árbol, les rapports entre père et fils.
Oui, à mon avis, à la vie, il y a deux relations importantes. C'est la relation qu'on choisit, c'est-à-dire ton pareja, ton épouse, ton mari, tes amis, etc. Mais il y a un autre type de relation très important que tu... doit accepter, c'est-à-dire tes parents, ta famille. Et parfois, ces relations, c'est très complexe, c'est très difficile, notamment avec les pères.
Oui, le fils avec le père.
Le fils avec le père. Moi, je suis le fils plus âgé de ma famille. J'ai 5-6 frères, on est 6, et moi, je suis le plus âgé.
D'accord.
Et... ma mère, il avait 14 ans quand je suis né.
Ah.
Donc, on a appris ensemble. Ma mère, il a appris à être mère, en même temps que femme.
Et toi, à être fils.
Et moi, j'ai appris à être fils, en même temps qu'homme. Dans cette relation très complexe, très difficile, et très...
fusionnelle.
Très, très, très forte, il y avait toujours la figure du père. La figure du père, c'était toujours cette figure énorme d'autorité qui ensemblait tout le monde. Donc, quand j'étais petit, mon père, c'était parfait. C'était l'héros. C'était qui avait la réponse à toutes mes questions, à toute ma peur. Et c'était mon refuge. Jusqu'à le moment où j'ai compris que pour devenir réel, pour être moi-même, pour être un homme, j'avais c'était pas désir, j'avais envie vraiment de refuser cette autorité paternelle. Tu es le père. Donc ça, c'est un sujet très, très, très littéraire et très récurrent dans la littérature. Cette transformation de l'héros, de ton héros, qui passe à être ton ennemi, c'est très, très, c'est très forte. Il y a une, je pense que c'est le moment où on dépasse l'adolescence, on dépasse l'enfance et on commence à devenir adulte. Donc il y a toute une histoire de malentendus, de non-dits, de silences, de s'ébattre contre cette figure paternelle. Jusqu'à les moments où on comprend, où on apprend que ton père, c'était ton père. C'est la chair, c'est la fragilité, c'était pas là toujours la sagesse, mais ça c'est très important, c'est toujours l'amour. Parfois un amour incomprendu, non? Donc c'est un moment très très fort, où on décide, mon père c'était un homme. C'était pas un héros, c'était pas un monstre, c'était un homme. Et moi je suis son fils. Et parfois j'étais juste avec lui, et parfois non. Et donc recommencer cette relation avec ton père, quand il devient adulte, c'est très très différent. À les moments où tu es un enfant et tu regardes ton père, qui c'est ton héros. C'est un autre type de relation, une acceptation mutuelle et plus réelle. Je pense que c'est un peu le cas de Miguel, non?
Oui, complètement.
Oui. En fait, c'est bizarre, c'est rare, mais c'est très poétique aussi que dans le roman, Miguel, il est plus âgé que son père. Ça, c'est très, très important dans les romans. C'est-à-dire, Miguel, il parle avec son père. Son père, c'est un fantôme. C'est depuis le début. Et son père, il est mort après la guerre civile, quand Miguel il avait 4 ans. Donc Miguel il a construit toute une image de son père à travers de la mémoire des autres, du livre, des récits des autres, etc., etc. Mais il a connu pas vraiment son père, jamais. Jusqu'à le moment où les fantômes de son père, à cause de la maladie, enfin, se trouvent. Donc son père, il a 35 ans, je pense, et lui, Miguel, il a 75. Ça veut dire que c'est drôle, parce que Miguel, il connaît mieux la vie que son père. Il a vécu plus de temps, il a eu la chance, les cadeaux de la vie de devenir vieil.
Oui, vieux.
Vieux. Mais son père, il connaît mieux la mort. Donc ces dialogues entre la vie et la mort, c'est très très passionnant, c'est très intéressant. J'ai toujours une difficulté de communication avec mon père, parce que, et je pense que c'est pareil par tout le monde.
Oui, tout le monde.
C'est un mélange de respect, de passé, de désirs, de souvenirs, etc. Ça c'est très difficile. Mais à les moments où j'ai compris que mon père était un homme, c'est-à-dire, à le moment où je me posais la question de qui était mon père avant d'être mon père, cette relation a devenu tout à fait mieux. Je ne sais si vous m'entendez très bien, que je te dis.
L'enfance meurtrie est souvent au premier plan dans les romans de Victor. L'enfance, oui.
Oui, j'avais une partie très importante de mon métier comme flic, elle était avec les enfants.
Les enfants.
Et je répète toujours ça, mais c'est, pour moi c'est très important de faire comprendre que, à mon avis, le plus important d'un homme, c'était l'enfance. C'était ses racines, son passé, etc.
Bien sûr.
Et plus, à mon avis, les crimes, les plus
le pire,
c'est de voler l'enfance à un enfant.
D'accord, de voler son enfance.
Exactement. Parce qu'après, il doit faire tout un travail de reconstruction, parfois très difficile, parfois pas avec des succès. Et en tout cas, toujours, on a envie d'être avec quelqu'un qui t'aide à sortir de cette douleur qui reste à jamais. Parce que la douleur de l'enfant, il reste à jamais, jusqu'à la mort. La douleur de l'adulte, on peut le processer, on peut l'accepter, on peut l'oublier. Pas l'oublier, mais l'accepter, ouais, le digérer. Mais la douleur des enfants, la douleur qu'on a souffert pendant l'enfance, ça reste à jamais. Et ça conditionne tout notre regard sur la vie. Ça intoxique toutes les relations qu'on a avec les autres, avec le monde. Donc pour moi, c'est très très important ça.
Vivre, c'est construire une identité, c'est entretenir un rapport particulier au passé, à la mémoire, un thème ô combien central dans les livres de Victor de l'Arbol.
L'identité, c'est toujours un récit des autres vers toi-même, mais de toi-même aussi, de tous ces souvenirs, de ta mémoire, de la mémoire des autres, de ton silence, de la construction fictionnelle de nous-mêmes. Mais je pense que j'ai trouvé un moment de ma vie où je pensais que l'identité, c'est refuser mon passé. C'est comme Miguel. Je refuse mes racines parce que j'ai de la honte, parce que j'ai de l'incompréhension, parce que j'ai de la haine aussi. J'ai le droit d'avoir de la haine contre mon père, ma mère, etc. etc. Non? Donc, certains, et Miguel, c'est un peu ce réflexe à moi. Non? Il y a certains moments, il refuse son passé. Ça veut dire qu'il refuse ses racines. Il veut se reconstruire à nouveau. C'est-à-dire à devenir un homme sans père et devenir un homme sans mère. Ça veut dire devenir un homme sans passé. Non? Sans passé. Jusqu'à le moment où arrive la maladie.
Oui, parce qu'il a la maladie d'Alzheimer.
C'était pas un roman de l'Alzheimer.
Oui.
Mais c'est un roman qui parle de la maladie du souvenir. Non? À le moment où Miguel comprend, parce qu'il commence à perdre la mémoire, etc., etc. Du coup, il comprend l'importance du passé, de la racine, de l'origine. Pourquoi toujours on a envie de revenir au passé? Pourquoi on a envie toujours de connaître l'histoire de notre famille, de revenir à notre petit village, d'écouter des chansons de la mère, de la grand-mère? Pourquoi pas aller vers le futur et oublier le passé? On ne peut pas. On revient toujours, toujours à notre passé. Et plus on avance à l'étance, plus on revient à le passé. Comment si on voulait retenir les passes du temps. Ça c'est très intéressant.
Oui, mais maîtriser le temps.
Ouais, ça c'est un mécanisme de la mémoire, un mécanisme, je dirais, de l'esprit très 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 courant, que j'ai trouvé très 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 courant. Quand j'étais jeune, je suis jeune, mais quand j'étais plus jeune, oui, j'avais pas le temps pour la mémoire. J'avais pas le temps pour la mémoire parce que je me disais à un moment, je suis très occupé à faire mon présent et à construire mon avenir, à construire mon identité. Je suis Victor de l'Arbol, je suis écrivain, je suis blablabla. Et mon passé, j'avais pas de temps. Mais à certains moments, j'ai commencé, je sais pas pourquoi, oui, je sais pourquoi, j'ai commencé à récupérer la mémoire de ma mère, de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Et je me suis dit, pourquoi? Parce qu'il y avait un moment, autant, même comme Miguel, que j'étais perdu. Je joue toujours avec une image très, très métaphorique. J'étais comme un arbre avec les racines dans l'eau. Et ça, c'est pas possible. Donc, j'ai commencé à chercher d'où je viens, mes racines. Et maintenant, je suis bien enraciné dans mon passé. J'ai accepté mon passé. Ça, c'est très important. Pour construire une identité, il faut accepter notre passé, les passés.
L'auteur a aussi un goût pour la tragédie.
Moi, j'adore la tragédie. La tragédie classique, la tragédie shakespearienne. Parce que dans la tragédie, on trouve toute l'épique humaine. La lutte contre le destin, l'amour, la haine, la honte, la vengeance, on a tout. J'adore ces sujets littéraires. Et moi, j'ai pensé toujours que la grande littérature, il doit être toujours tragique. Parce que dans la tragédie, il y a une certaine, si vous voulez, une certaine noirceur. C'est pour ça que j'adore cette collection. Si on lit Shakespeare, on comprend la noirceur. Si on lit Les frères Karamazov de Dostoïevski, c'est un roman noir. Si on lit Follner, c'est un écrivain noir. Mais j'adore cette noirceur de la tragédie. Même l'Odyssée, c'est une tragédie noire. Et pourquoi? Parce que, à mon avis, la noirceur, c'est une façon très intelligente d'évoquer les plus intimes de la nature humaine. C'est-à-dire, ce que j'adore de la tragédie, c'est que pour devenir réel, on doit embrasser tout ce qu'on est, toute la nature humaine. La douleur, la bonheur, la malheur, la contradiction, tout. Dans L'Idiote, je pense que c'est que Dostoïevski disait l'homme, il est toujours malheureux parce qu'il ne comprend pas qu'il est heureux. On construit toujours son propre enfer parce qu'on ne comprend pas qu'être là, être ici, être vivant, même dans la tragédie, c'est magnifique. Je préfère toujours la tragédie dans ma vie que la tranquillité. Je pense que la littérature, la vraie littérature, il doit refuser l'anecdotique, la particularité, pour aller vers l'universalité. Et à mon avis, l'universalité d'aujourd'hui, de notre temps, c'est la désmémoire. Je ne sais pas si ça se dit en français, si ça existe en français. La non-mémoire, c'est-à-dire l'oubli volontaire.
Oui, l'oubli volontaire.
L'oubli volontaire, non? Et je pense que c'est, dans ce dialogue de Simone, entre Simone et Miguel, c'est clair mon point de vue, c'est que l'oubli, c'est un droit individuel. Chacun d'entre nous a le droit à oublier ce que veut. On a le droit. C'est pas, à mon avis, c'est pas conseillable, mais on a les droits. Mais pour l'État et pour la société, la mémoire, c'était une obligation. C'était pas un droit, c'était une obligation. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la mémoire répond toujours à l'état présent. C'est-à-dire, la mémoire, c'est un sujet utile pour donner de argumentation,
oui, une justification,
des justifications à les moments présents.
Bien sûr.
Et pour moi, c'est très 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 dangereux. L'exemple le plus important pour nous les Espagnols, c'est le Valle de los Caídos. Le Valle de los Caídos, c'est la tombe de Franco. Oui, Franco, aujourd'hui, c'est un terrain. Il y a 80 années que la guerre civile espagnole s'est finie. Aujourd'hui, encore, c'est sujet de discussions très fortes en Espagne. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce monsieur qui est là? Ça veut dire que pour nous, la mémoire, encore, c'est très, 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 très difficile à digérer. Donc, j'ai fait une réflexion à travers de Simone et à travers de Miguel de l'importance d'accepter le passé pour essayer de faire un futur ensemble.
Oui, parce que c'est carrément une sorte de dialogue d'explication. C'est pas une justification quand même.
Non.
Voilà.
Oui. Exactement. Et normalement, j'essaie, autant qu'un narrateur, j'essaie toujours de rester dehors
Oui, à distance.
Les romans, dehors, mes personnages. Mais c'est inévitable que parfois la propre expérience et la propre, je dirais, moralité, ou le contraire, l'immoralité, reste dans le récit. Et à mon avis, les grands problèmes de l'Espagne aujourd'hui, c'est encore cette préjuge autour de la mémoire, de notre passé. On n'est pas capable d'accepter encore notre passé. Et ça, nous empêche une discussion intellectuelle, sociale, politique, toujours contaminée pour des fausses raisons. Parce qu'on n'a pas, par exemple, comme vous direz, en Espagne encore, aujourd'hui, il y a 150 000 personnes disparues qui sont dans les fausses communes. Encore. Encore. Ça veut dire qu'il y en a une absence de volonté politique pour récupérer cette mémoire. Alors, les pardons, la discussion et le débat, c'est impossible. C'est impossible. Parce que la première règle pour solutionner un problème, c'est accepter avec honnêteté que ce problème existe. Et là, El Valle de los Caídos symbolise tous ces problèmes.
Tous ces romans se passent souvent autour de du drame espagnol, du problème qu'a l'Espagne avec la mémoire, avec l'histoire, avec la guerre civile.
Les problèmes du franquisme, les problèmes de, je dirais, de toute la guerre fratricide, c'est qu'on ne peut jamais oublier, parce que ça va rester toujours dans les ADN de toutes les familles. C'est-à-dire, la guerre espagnole, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation ici en France, on a touché tout le monde, presque, mais c'est plus facile d'assimiler parce que l'ennemi, c'était l'autre. Le problème de la guerre civile, c'était que l'ennemi, c'était pas l'autre. L'ennemi, c'est toi. Toujours, avec ton frère, avec ton cousin, avec ton voisin, etc., etc. Donc, il y a eu les vainqueurs et il y a eu le vaincu. Et cette idée des vainqueurs franquistes, c'était pas seulement gagner la guerre, sinon gagner la paix. C'est très intéressant parce que ça, c'était dans le mouvement, le movimiento, son système, c'était on a gagné la guerre, on va gagner la paix. Et gagner la paix, ça veut dire deux choses. On va refaire l'histoire, on va reconstruire la mémoire, et on va faire que toujours se souvient de qui était le vainqueur. À jamais. Et cette idée, il a eu succès. Il a eu des succès. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, après la mort de Franco, le franquisme, il a continué. Aujourd'hui, les franquismes, ils continuent. Ce n'était pas un mouvement politique, organique, etc. Mais l'idée de les vainqueurs et les vaincus existe et restera à jamais, jusqu'à le moment où on décide d'affronter cette réalité. C'est passionnant. C'est un sujet passionnant. Même j'ai un collègue, un écrivain que j'adore, c'est Kamel Mahoud, argélien. On a discuté beaucoup aussi à propos de la relation entre la métropole et l'Argélie. Et on est arrivé à la conclusion de que c'est un sujet pareil. C'était un débat, c'était une discussion à faire encore entre vous et les Argéliens.
Bien sûr.
Ça c'est sûr.
Voilà, c'était de larges extraits d'une rencontre avec Victor del Arbol à la librairie L'Opuscule. Et pour un roman qui s'appelle Par-delà la pluie, nous étions avec un orage. Vous avez peut-être entendu dans l'enregistrement quelques tonnerre qui gronde. Et oui, il y avait un violent orage sur Montpellier. Quelle belle coïncidence. Une lecture que nous vous conseillons, Victor de l'Arbol et tous ses romans, c'est chez Actes Sud, dans la collection Actes Noirs. Bonne lecture à vous et à très bientôt. Et n'oublions pas, merci à Rongemaille, à la technique. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.